Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission hebdomadaire Histoire de France et d'ailleurs avec René Joseph Irmana qui nous propose aujourd'hui le combat pour l'abolition de la peine de mort, bien sûr, qui a été demandé à l'époque par Robert Badinter. Et on retrouve tout de suite pour nous parler de cela René Joseph. Bonjour.
Bonjour. Donc, au préalable, petit retour sur l'émission de mardi, consacrée à Lindbergh. C'était pour du petit, c'est comment dire, le moment confessionnal. Donc, des petites choses que j'ai omises ou que des erreurs. Voilà. Donc, c'était le mardi 9, hein, mardi dernier. Que je dis. Ah oui, à propos de Nungesser, Charles Nungesser et François Colly, les deux aviateurs français qui abordent l'Oiseau Blanc, s'étaient abîmés dans l'Atlantique. Donc leur mort, leur disparition, je crois qu'on avait retrouvé, on a retrouvé plus récemment l'emplacement de l'épave. Mais bon, ils sont disparus dans la nuit du 8 au 9 mai. 1927, hein, voilà, et non pas comme je l'avais dit, alors que le succès, la réussite de Lindbergh, c'était donc le 20 mai, le 27 mai, ou le 20 mai 1927. Donc c'était un peu avant le 9 mai, mais bon, voilà, un point de détail. Et Funk, que j'ai cité, qui avait eu un échec, alors ça devait être en 1926, fin 1926, au départ des États-Unis, un échec tragique. En fait, c'était un Français, c'est pour ça que c'est un peu mérite d'être souligné, mais il participait à un projet, donc... dans le même sens que Lindbergh, c'est-à-dire départ New York, arrivée Paris. Et donc ça a été un échec tragique au départ. C'était René Funk, un militaire qui a été un héros, un as de la guerre de 14. Et donc il y avait des accompagnateurs, il y avait trois coéquipiers et deux sont morts. L'avion s'est abîmé dès le départ. Hein, voilà. Il y a eu deux morts, d'où cette tragédie. Mais lui est mort, il n'a pas été blessé. Apparemment pas gravement, il est mort seulement en 1953, voilà, c'était à bord d'un bimoteur le 21 septembre 1926. Et donc Lindbergh, on l'a relaté, c'était donc le 20 mai 1927. Voilà. Donc c'était cette petite mise au point. Aujourd'hui on va vous parler, je vais évoquer cette combat, le combat pour la peine de mort, le combat abolitionniste. Alors d'abord, on peut faire une évocation au niveau de la religion chrétienne. Hein, c'est d'abord le premier, enfin le condamné à mort par excellence, c'est le Christ. On a cette image du Christ qu'on a un Dieu crucifié, donc et entouré des deux larrons, là, le bon et le méchant, quoi, là, le bon et le mauvais. Donc c'est cette expression, hein, du condamné à mort sublime. Divin. Voilà. Mais la peine de mort donc fait partie, disons, des origines de l'humanité, hein, depuis toujours. Alors, j'y reviendrai à propos des positions de l'Église, justement, et des religions, au regard de cette peine de mort. On va voir qu'elle fait partie, déjà, elle est dans la Bible, avec cette expression, c'est ce qu'on appelait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et c'était déjà un progrès par rapport à la barbarie, si on peut dire. Ça veut dire que c'est talis, d'où vient talion, expression latine, adjectif, un teint qui signifie pareil, identique, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Je te rends exactement ce que tu m'as pris. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt au niveau de la vengeance, si on peut dire. Voilà. Le Coran, c'est pareil. On verra que le protestantisme aussi, avec Calvin, était très... très dur, hein, et très pour la peine de mort. Je reviendrai dans un deuxième temps sur cette position et cette évolution de la position de l'Église au fil des siècles et des Églises en général. Donc, à la fin du XVIIe siècle, au niveau du. Donc, il y avait bien sûr, depuis les origines, cette peine de mort, depuis le Moyen-Âge, depuis. Depuis toujours, elle a été pratiquée sous diverses formes. Donc là, on se situe, mettons fin des 17e, début 18e, c'est là que se marque l'évolution. On va dire un frémissement, si on peut dire. Donc, notamment, le pays du Nord, les Provinces-Unies, l'Angleterre évoluent. Et on s'interroge sur cette. Il y aura le progrès de l'humanisme, notamment chez nous, au 18e siècle, au 17e, déjà le grand siècle de Louis XIV, qui meurt en 1715, il y aura, et puis sous Louis XV, bien sûr, 18e siècle, ça sera le siècle des Lumières, des philosophes qui s'interrogent donc sur la peine de mort. Donc le progrès, je l'ai dit, de l'humanisme, ensuite une baisse de la popularité. On regarde ces lumières, ce qu'on a appelé les lumières, certains aussi intellectuels, alors Diderot, Rousseau, Voltaire, etc. D'autres moins connus, les encyclopédistes, eh bien, certains s'intituleront les amis des hommes, comme Voltaire, et donc s'interrogeront sur cette peine de mort. Mais ça sera juste une discussion, si on peut dire, philosophique et humaniste, mais il n'y aura pas vraiment de position ferme, y compris Voltaire, par exemple, n'était pas pour l'abolition pure et simple. Hein. Voilà. Donc, baisse du respect du pouvoir royal, bien sûr, qui atteindra son optimum sous Louis XV, à la mort de Louis XV, on sait que le roi qui est mort en 1774, hein, il a régné à la mort de son ancêtre Louis XIV, en 1715, il était enfant, Louis XV, il meurt en 1774, on doit l'enterrer de nuit, il est haï, hein, le bien-aimé est devenu le haï, hein, avec ses maîtresses, etc. Et donc, baisse du pouvoir royal, et puis baisse avec ce droit de cette justice qui était immanente au pouvoir royal, de droit divin. Hein, le roi avait la main de justice, c'est-à-dire qu'il pouvait lui-même exercer cette justice. Et donc, ce sentiment. Et puis, l'Église aussi, on le verra. Puis, depuis d'ailleurs Calvin, je veux dire Luther, Calvin, l'Église aussi baisse, disons, dans son prestige. Et donc, à l'opposé, ce sont les Lumières, ce sont les philosophes. Alors, sous les souverains, c'était aussi la lettre de cachet, qui permettait d'emprisonner sans autre formalité, par ordre du roi, notamment à la Bastille. Donc il y a une notion de sécularisation, perte de vitesse, aussi bien de la monarchie que de l'Église, et ça s'exprimera totalement sous Louis XVI, enlevé avec et qui amènera la révolution avec un souverain qui n'était pas à la hauteur, et qui n'a. Ça a été la chute pure et simple de la monarchie. Donc j'ai évoqué ces philosophes. Alors Rousseau, bien sûr, Jean-Jacques Rousseau, d'autres qui sont comme La Mettrie aussi, c'était moins connu, qui aussi faisait alimenter le débat, hein, un débat plus humaniste sur les conditions peut-être de cette peine de mort, sur une volonté d'humaniser. Alors La Mettrie, c'était un philosophe aussi, académicien du temps de Louis XV, Louis XIV et Louis XV, hein, voilà, du début du XVIIIe siècle. Alors, Diderot, Rousseau, puis Voltaire, enfin. Alors, ils sont pour la peine de mort, ils ne sont pas contre, sur le principe, mais elle est vue comme une extrême, comme une nécessité sociale. On ne peut pas passer outre. Voltaire, par exemple, prendre plutôt toutes les autres modalités, si possible, le bagne, etc. Voilà. Il va paraître un livre, peu connu, mais décisif, qui a fait l'effet d'une bombe en 1764, le livre de Beccaria, Cesare Beccaria, un Italien, B-E-C-A-R-I-A, intitulé « Des délits et des peines » et qui paraît en 1764 et qui aura une influence, c'est un juriste, philosophe italien, influence énorme, un best-seller dans toute l'Europe, traduit dans nombreuses langues, enfin les langues européennes, retentissement, donc il s'exprime contre la peine de mort. Et donc Voltaire, que j'ai évoqué, est fasciné par cette argumentation contre la peine de mort. Et donc la évolution, alors soit dans certains pays, il y aura d'ailleurs la suppression pure et simple. Alors on cite la Corse, était indépendante hein, en 1755. Depuis 1755, elle était séparée de Gênes. Donc elle a eu une période d'indépendance jusqu'à 1769. Autant où elle était sous, ensuite, je pense, mais je n'ai pas vérifié, c'est sous Louis XV, justement, que la Corse a été achetée par sous Louis XV et a réintégré la France. Je ne dis pas de bêtises, mais. Donc, Corse indépendante supprime la peine de mort. On a aussi, par exemple, la Toscane, qui était une principauté indépendante, qui est d'ailleurs la patrie de Beccaria, en 1786, qui supprime la peine de mort. Donc la France, sous Louis XV, n'a pas supprimé, mais on est dans un sens de réduction. On réduit les cas passibles de la peine de mort. Et le souverain, donc Louis XV et puis Louis XVI, utilise le droit de grâce largement. Révolution, à partir de 1789... 1793-94, enfin, qui se terminera par qui poursuivra par le directoire 1795 et par le consulat puis l'Empire. Donc sous la Révolution, l'Assemblée constituante, alors tenez-vous bien, Robespierre se montre abolitionniste, il est contre la peine de mort, le sanguinaire. Lui qui deviendra sanguinaire, promulguera la terreur avant d'en être victime et qui enverra des milliers de gens à l'échafaud. Il est contre. Et notamment dans son discours du 30 mai 1791, il propose de modifier le code pénal, présente un projet pour l'abolition de la peine de mort. Mais on sait que ces beaux principes vont être misés et ça sera l'échafaud, là, va fonctionner à tour de bras. On va envoyer des milliers de gens à l'échafaud, notamment pendant la période de la terreur. Et grande terreur, 1793-1794. Néanmoins, à cette époque, en 1791, d'ailleurs c'est juste avant la fuite du roi à Varennes, hein, et le retour, il y a l'Assemblée contre, hein, toutefois, malgré la proposition de Robespierre. Donc, mais on réduit quand même les cas, je l'ai dit, alors initialement c'était à peu près 115 cas. Passible de la peine de mort, on réduit à 32. Voilà. On peut citer, alors là, un élément, dans ce volet humanisation, mais entre guillemets, en prenant beaucoup de distance, proposition de Le Pelletier de Saint-Fargeau, donc qui est un député de la Constituante. Et, alors, c'est cet article du Code pénal qui fera florès, en quelque sorte. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et c'est un. Comment dire, on élimine les autres modalités, les autres modes opératoires qui existaient déjà bien sûr sous l'Ancien Régime. Par exemple, donc là on élimine la pendaison, on élimine le bûcher. Là c'est efficace, direct, et avec un minimum, voire minimum de souffrance. Et là intervient le docteur Guillotin. On y reviendra un petit peu, qui est aussi un député de la Constituante, et il donnera son nom à l'invention de cette machine qu'est la guillotine, qu'on appellera veuve, etc. C'est pas lui en réalité qui l'a inventé, mais enfin il signe, c'est lui qui propose, c'est le maître d'ouvrage, si on peut dire. Il n'a pas fait la mécanique, mais il présente ça à la Constituante le 10 octobre 1789. C'est pour humaniser, justement, la mort. Hein. Il déclare aux députés, je vous fais sauter la tête et en un clin d'œil, et vous ne souffrirez point. Voilà. Donc c'est pour rendre la mort, la peine rapide, propre, efficace, et cette guillotine va fonctionner, je l'ai dit, intensément. Elle va faire couler des flots de sang, voilà, pendant la période révolutionnaire. Et la première utilisation de cette guillotine aura lieu le 25 avril 1792. D'abord, on avait fait des essais sur des moutons, on avait coupé la tête de cadavres, et le malheureux inaugurateur, si on peut dire, ce 25 avril 1792, le premier guillotiné. Et dès juin 1793, chaque département sera doté d'une guillotine. Donc, cette révolution sera une période sanglante à partir de 1792 jusqu'à, 1795, jusqu'à la chute de Robespierre en 1794. Terreur, salut public, elle fonctionne à plein temps. Alors les droits de l'homme, pour le coup, ils sont remisés au placard. Mais évolution, après la révolution, donc vers le fin 18e, enfin courant 18e ou fin, et 19e, les romantiques, et puis les républicains voudront, s'interrogeront, interpelleront sur ce sujet. Et toujours sans, sinon le principe de la suppression, sinon l'abolitionnisme, ça sera une réduction. Le code pénal de 1810 prévoit 36 cas passibles de la peine de mort, encore 36 cas, 32, alors qu'il y en avait que 32 en 1791. Mais bon, on craint, justement, il y a les pour et les contre. Alors, bien sûr, les pour, c'est les arguments habituels, c'est le caractère d'exemplarité qui est contesté, hein, et dénié par les contre. Exemplarité, le caractère de... aussi, alors pour remonter plus loin, plus en amont, au temps de l'Ancien Régime, la puissance de l'Église, c'était aussi pour que la peine de mort était considérée comme un bienfait pour le condamné, parce que il payait ses forfaits, et il était sauvé pour l'éternité. Donc on prenait sa vie, mais on sauvait son âme. Donc on considérait que c'était humain pour lui. Voilà. Il avait le salut. Donc c'était aussi l'argument. Et les contres, qui vont prendre de la voix, ce sont ceux qui considèrent, d'une part, que la peine de mort n'est pas exemplaire, elle n'a pas d'effet dissuasif, que avec l'évolution aussi de la psychiatrie, de psychologie, enfin, on parlait au début de... Même avant Freud, bien avant, cette notion s'interrogeait sur la notion de responsabilité, sur la possibilité de maladie psychiatrique, avant que le nom existe. Et donc, faut-il tuer un malade, quelqu'un qui est malade? Et puis, l'idée de réhabiliter, l'idée de, irresponsabilité, et puis possibilité de récupérer, de sauver, de réhabiliter. Voilà. Cette idée aussi, qui est quand même très... chrétienne, de rétablir, de ramener la brebis égarée, si on peut dire, hein, dans le giron, voilà, la réinsérer. Il y avait toutes ces notions. Mais les partisans, toutefois, à la sortie de la Révolution, toujours du maintien de cette peine de mort, c'était au nom de l'ordre, de la sécurité. Voilà. Et donc, il prévalait. Mais, on l'a dit, avec une notion de réduction, c'est-à-dire la position de l'Église, j'y reviendrai, jusque d'ailleurs très récemment, c'est sous le pape François que la peine de mort a été sortie du catéchisme officiel de l'Église catholique. Pape François depuis 2013. Cette notion de peine de mort était sortie, alors qu'avant elle était acceptée dans les cas extrêmes. C'était 2013, le pape François, il y est toujours, c'est à la mi-mandat le catéchisme officiel de l'Église catholique a été modifié pour exclure purement et simplement cette peine de mort. Voilà. Donc il y a eu ces législateurs, ces penseurs, et puis des chefs d'État qui se sont interrogés. Et par exemple, Charles X, qui était pourtant souvent, un royaliste intégriste, à la différence de son frère qui l'avait précédé sur le trône, Louis XVIII, en 1814 puis 1815, Charles X lui succède en 1820, jusqu'en 1830, ou 1825 jusqu'en 1830, et il accorde 36% de grâce. Le chef d'État, depuis toujours, pouvoir régalien, accorde les grâces, un droit de grâce. Entre donc 1826 et 1830, il gracie au maximum. Et Louis-Philippe, qui lui succède, enfin, qui prend le pouvoir à la faveur de la Révolution des Trois Glorieuses de 1830, Louis-Philippe de la branche donc des Orléans, branche cadette, lui sera contre la peine de mort. Il abhorre la guillotine et il a souvenir de son père, Philippe Égalité, qui s'était converti à la Révolution et qui lui aussi, Philippe Égalité, pourtant un pur jacobin, avait fini sur l'échafaud. Ouais. Donc il a le souvenir de son père, il est contre et il gracie au maximum. Donc les crimes passibles, on va dans le sens d'une réduction, comme souligné. Alors par exemple en Angleterre, c'est seulement 4 en 1800, 4 cas de crimes sont sanctionnables par la peine de mort. Et en France, on est à 10 en 1830. Alors, les écrivains romantiques, bien sûr. Alors, Victor Hugo en tête, on a ce pamphlet de Victor Hugo, Les derniers jours d'un condamné. Voilà, il est contre Victor Hugo, donc notamment, je pense que c'est en 1832. Hein. Lamartine aussi, 1830, est contre la peine de mort, dans un style de grandiloquent, les vapeurs de sang, enfin, Lamartine, bien sûr, les romantiques, si on, sont abolitionnistes. Deuxième République, 1848-1851, qui verra Louis-Napoléon, le neveu, hein, élu président de la République, coup d'État, du 2 décembre 1851, un an plus tard, restauration de l'Empire. Alors là, sous la Deuxième République, abolition de la peine de mort, mais pour des raisons politiques. Donc, on peut citer, mais on le sait que ça ne durera pas, c'est une République de 4 ans. On peut citer Victor Schoelcher, un abolitionniste aussi, qui a attaché son nom à l'abolition de l'esclavage. Là, lui aussi, ça fait partie de ses politique et penseur humaniste. Alors le Second Empire, pas de changement, elle est maintenue. Troisième République, maintenue après septembre 1870. Donc on a, je l'ai dit à ce moment-là, comme j'en ai parlé, ces éléments aussi intellectuels et scientifiques, humanisme et le scientisme peut donc médical. On parle effectivement que le coupable, d'une part, peut être irresponsable, la notion de maladie mentale, psychiatrique, dira-t-on plus tard, avec Freud, bien, mais il y avait déjà on soignait déjà les troubles, bien avant Freud, hein, voilà. Il y a eu des expériences, et on disait que le coupable n'était peut-être pas coupable, il avait des excuses, ou voilà, il n'était pas irresponsable. Et puis cette idée de réhabilitation, de réintégrer, qui est une notion aussi très chrétienne. Bon, alors ce sont ces arguments, et puis les arguments sociologiques. Alors la peine de mort a été pratiquée en public après 1900, il y a eu des exécutions publiques. Alors là, c'était la condamnation, notamment de cette exécution de caractère public, parce que ça flattait les bas instincts. On venait comme au spectacle assister à l'exécution. Et d'ailleurs, rassurez-vous, aujourd'hui, on rétablirait la peine de mort. Les exécutions publiques, vous auriez des gens aujourd'hui en 2021. Il y aurait un public pour se gargariser de ça, n'en doutons pas. L'être humain est aussi salaud aujourd'hui qu'hier, et il était aussi salaud hier qu'aujourd'hui. Ne nous fais pas d'illusions. Donc, je cite Lamartine, j'y reviens dans son beau poème au peuple de France, où il évoque ses vapeurs de sang, voilà, ses vers sublimes, du 19 octobre 1830. Donc, les autres pays, Belgique, abolition depuis 1863, au 19e. Portugal, abolition en 1867. Hollande en 1870. Et puis il y a un autre argument que j'avais omis dans les opposants, les abolitionnistes, c'est que il peut y avoir l'erreur judiciaire, l'angoisse de l'erreur du judiciaire. Alors on a l'affaire Dreyfus en 1906. Enfin dans les, qui dure alors de, je sais pas, 1900 1906, qui est condamné au bagne, mais son innocence est avérée, prouvée, il est réhabilité. S'il avait été exécuté, il y avait aussi dans les modes opératoires, si je puis dire, je ne l'ai pas eu, c'était le fusillé pour le, j'y reviendrai un petit peu sur les modes opératoires. Les militaires s'étaient fusillés. Alors la décapitation, mise en place, on a évoqué le docteur Guillotin, la guillotine. Avant c'était la décapitation pour les, alors je crois la hache pour les bourgeois, l'épée pour les nobles, la pendaison pour les voleurs, le bûcher pour les, dans le cadre notamment de l'Inquisition au XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire les hérétiques, là, on les brûlait, les Templiers, Jeanne d'Arc ont été brûlés. Voilà. Donc, élément symbolique dans le budget de 1907, donc sous la Troisième République, eh bien suppression des crédits et de l'indemnité accordée aux bourreaux. Donc, là, c'est, on supprime ça du budget de la nation. Je reviendrai aussi sur les bourreaux, sur les dynasties de bourreaux, enfin, le personnage du bourreau qui était à la fois inquiétant et fascinant. Début juin à décembre 1908, à l'Assemblée nationale, c'était la Chambre des députés à l'époque. Donc, débat sur l'abolition, mais in fine, elle sera maintenue. Alors, on avait par exemple Barrès, un auteur plutôt d'extrême droite, hein, dirait-on aujourd'hui, qui était pour le maintien, Barrès. Et puis à l'opposé, on avait pour l'abolition, on avait Clémenceau, des gens de gauche, hein, Aristide Briand, Jean Jaurès, mais c'est pas, je pense, radical, hein. C'est des majorités d'idées, hein, qui dépassent, qui transcendent les partis. Clémenceau, Jean Jaurès, Paul Deschanel, on avait fait une émission sur ce président qui, pour le réhabiliter, notre petit niveau, c'est Paul Deschanel qui était tombé du train, hein, près de Montbrison, voilà, et qui avait des problèmes mentaux, quoi. Et donc, mais c'était avant cela un grand orateur, un des plus grands orateurs, et il avait prononcé un superbe discours en 4 novembre 1908 devant l'Assemblée contre la peine de mort. Mais vote final, 1908, eh bien 330 voix pour le maintien, 201 pour l'abolition. Et mais on va s'acheminer de façon, on va dire, inéluctable, Dieu merci, vers, eh bien, cette abolition de la peine de mort. Alors, on va faire un intermède. J'étais un peu long. Bon, on va faire un intermède approprié, j'espère. Ce sera tout simplement, enfin, à propos de, justement, de l'abolition qui est intervenue en 1981, c'était dans le programme de Mitterrand, et donc Robert Badinter, ministre de la Justice, présente le projet d'abolition, et cette abolition qui aura lieu en mai 1981. Donc, extrait du discours de Robert Badinter, c'est dans le cadre d'une émission de TF1, enfin du journal PPDA, hein, il présente, et qui renvoie, donc, qui présente l'événement avec l'extrait du discours historique, hein, ô combien, de Badinter devant l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur de demander l'abolition de la peine de mort. On se retrouve dans 2 minutes 32 précisément.
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Bonsoir. Il était 3h30 cet après-midi quand le garde des Sceaux, Robert Badinter, a donc prononcé cette phrase qui rejoindra sans doute les grands moments, les grands débats des élus du peuple. Qu'on soit pour ou contre la peine de mort, il est certain que ce 17 septembre 81 marquera une date. Voilà près de trois quarts de siècle que les députés ne s'étaient saisis d'un projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. C'était le fameux débat de 1908 entre Jaurès et Barrès. Entre-temps, nombreux furent ceux à batailler pour supprimer la guillotine en France, à gauche et à droite. Et face à une opinion hostile, François Mitterrand, pendant la campagne, il y a 6 mois, avait répété son hostilité à la peine capitale. Et c'est d'ailleurs l'un des plus farouches avocats de l'abolitionnisme qui l'a placé au ministère de la Justice et qui se retrouvait donc cet après-midi devant les députés.
Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. À cet instant, lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre.
Robert Badin.
Donc, on va vers l'abolition. C'est un courant, on va dire, de l'humanité inéluctable. Encore que les retours arrière sont toujours possibles. Et puis, en France, dans les pays civilisés. Mais la France a été le dernier pays de l'Union européenne, donc des 27, à abolir la peine de mort. Donc, le mouvement, c'est par l'exemplarité, par les événements internationaux, par exemple Sacco et Vanzetti en 1927, l'exécution des deux anarchistes. D'ailleurs, il y a toujours eu des doutes sur leur culpabilité, de l'un ou de l'autre, on avait fait une émission sur eux, mais c'est un immense retentissement mondial. On demande, le monde entier demande aux États-Unis de renoncer à leur exécution. Ils sont exécutés, ils passent pour des victimes. Le sont-ils? L'un des deux probablement était innocent. 1953, c'est l'affaire Rosenberg. On a cette pièce, alors là c'est d'Alain Decaux, qui fait écho d'un retentissement international. Les couples, les époux Rosenberg étaient accusés d'espionnage pour l'URSS. Ils ont été exécutés, tous deux. Alors, on a su... après la chute du mur, qu'effectivement ils étaient coupables d'espionnage, après la sortie des archives. Mais bon, on les croyait innocents à l'époque, et puis bon, Julius et Ethel Rosenberg, c'est un couple quasi romantique, enfin légendaire, le monde entier. Alors Alain Decaux avait écrit « Les Rosenberg ne doivent pas mourir ». C'est une pièce de théâtre. Et puis, Elisabeth II, Pie XII, Vincent Auriol, le président français socialiste, demandèrent la grâce, sans effet. Alors il y a eu, on avait parlé de l'enlèvement du bébé Lindbergh en 1927, dans notre dernière émission, en 1930, hein, ou 32, veux-je dire. Il y a eu ces cas qui, d'enlèvement et de meurtre, notamment d'enfants, qui ont douché, si on peut dire, les enthousiasmes en faveur de l'abolition. Il y a toujours ces mouvements de sac et de ressac, si je puis dire. Et alors il y a eu, par exemple, là c'était pas un enlèvement d'enfants, c'était en 70, Buffet Bontemps, de prisonniers, je ne sais pas si c'était à Clairvaux, qui, à la centrale, qui assassine un gardien et une infirmière. Ça avait eu un grand retentissement. Il y a eu l'affaire Christian Ranucci, dans les années 76. D'ailleurs, Christian Raducci, là aussi, ça illustre la thèse du risque d'erreur judiciaire. Était-il coupable ou innocent? Bon, hypothèse de l'innocence, peut-être grave erreur judiciaire. Et il y a eu par contre les assassins d'enfants, quoi. Mais Patrick Henry, alors là, on le sait, en 79, l'affaire du il enlève un enfant, on l'a en mémoire, il réclame une rançon alors que l'enfant est déjà exécuté. C'est un personnage d'un cynisme terrifiant. Ouais. On l'a vu interviewé, vous savez, alors qu'on le croyait simple témoin, réclamait la peine de mort pour le coupable. Hein. Lui-même, un monstre froid, quoi. Et donc là, ça réveille les pulsions, les tentations de maintien, d'appliquer la peine de mort. Et c'est à propos de cette affaire Patrick Henry que il y a un avocat, enfin, il aura un avocat, je voulais le noter, qui l'a suivi, mais il y aura le prestigieux, la vedette du barreau, Robert Badinter, qui va utiliser le cas. Il rendra pas visite à Patrick Henry, hein. C'est la grande vedette du barreau, mais il utilisera l'argument, justement, de la peine de mort. Il défendra pas Henry, mais il défendra la suppression de la peine de mort, et ça sauvera la tête de Patrick Henry. Voilà. Donc en janvier 77, par exemple, justement après l'affaire Henry, l'opinion est à 80%, 83% pour la peine de mort. Et donc il y aura en 77 toutefois une ultime exécution. Ça sera pas Patrick Henry, après Ranucci, ça sera un maghrébin, quoi, je crois, de 28 ans, Jean Doubi, hein, Derrida Jean Doubi, un jeune homme de 28 ans, qui sera le dernier guillotiné français en fin 1977. Donc, loi Badinter, qui va. Alors, outre les politiques, alors les intellectuels, disons l'intelligentsia, bien sûr, dans ces années 70, déploie tous ses feux pour faire aduler la peine de mort. Personnages comme par exemple Julien Clerc, on passera sa chanson tout à l'heure, l'assassin assassiné. On a aussi des, bien sûr, des. Il y a eu John Baez aux USA, il y a eu François Mauriac, alors les écrivains, Jean Genet, Arthur Kessler, pour l'abolition. Et donc, Mitterrand, dans son programme, eh bien, prévoit l'abolition. Il est élu le 10 mai 1981. Le 28 ou 26 août 1981, eh bien, Robert Badinter, enfin, le projet est présenté en Conseil des ministres à l'Assemblée le 17 septembre 1981, voté le 18 par 369 pour l'abolition, contre 113 pour le maintien de la peine de mort, et au Sénat, approuvé le 30 septembre 1981, là aussi par une majorité, alors de 161 contre 126. On voit quand même qu'il y a une forte minorité pour le maintien de la peine de mort. Et la loi d'abolition est promulguée le 9 octobre 1981. Alors, je vais évoquer ici un peu la position des églises. C'était des. Aujourd'hui, l'église catholique, notamment, a beaucoup perdu avec les scandales récents, enfin, des 20 dernières années. Mais ça a toujours été une autorité morale, un phare, hein, voilà, au niveau des questions de société. Voilà. Et donc, à l'origine, il y avait ce droit de vengeance dont j'ai parlé au début, les textes sacrés, la Bible, mais aussi le Coran, avec la charia, et le code pénal islamique, les religions, on parle ici plutôt de l'Église catholique, mais bien sûr le Coran pratique la charia, c'est la loi du talion qui est exprimée dans la Bible, qui est très proche donc du Coran, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc, tu as tué, on te tue. Voilà. Mais il y avait au-delà de ça, alors là aussi l'effet d'idolâtrie, par exemple, était condamné. Au Moyen Âge, à partir du 12e, vers le 12e, 13e siècle, c'était la Sainte Inquisition. Alors, on brûlait les idolâtres et les hérétiques. Les hérétiques, voilà. Alors l'adultère, on a cet épisode de l'Évangile où le Christ, justement, lui, victime, qui sera pendant sa vie publique, bien, on pourrait dire abolitionniste avant la lettre. Alors la femme adultère qui est en passe d'être lapidée, et la question du Christ au lapidateur, eh bien, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà. Donc l'adultère était sanctionné par la lapidation. Mais c'est toujours le cas dans les pays islamiques, hein, aujourd'hui. Hein. Les homosexuels, etc. Bon. Les adultères, condamnation. Donc, il y avait aussi l'apostasie. L'apostasie qui était condamnée, c'est-à-dire toujours la notion d'hérétique, et les relapses, c'est-à-dire ceux qui étaient revenus après l'aveu de leur faute et qui revenaient et qui de nouveau revenaient à leur rejet initial, qui revenaient sur leurs aveux. Alors on a l'exemple des Templiers, on le sait, il faut que j'arrête de dire on le sait, vous m'arrêtez hein, si je continue. Les Templiers, Philippe le Bel, Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, et deux de ses adjoints, on dirait aujourd'hui, ont été brûlés. Pourquoi ? Parce que après avoir reconnu leur faute, ils ont été peu nombreux, je pense, les Templiers à être brûlés. Ils ont été dissous. Mais pourquoi ? Parce que après avoir reconnu, au moment in fine, ils ont refusé, ils sont revenus sur leurs aveux. Donc c'était des relapses. Et donc ça, c'était le bûcher. Voilà. Et même cas pour Jeanne d'Arc en 1431, elle avait d'abord reconnu, dans un moment de faiblesse, être une sorcière. Enfin, et puis elle se ressaisit, et donc elle revient sur ses aveux, et c'est le cas de relapse. Et donc là, c'est le bûcher. Donc ce sont les penseurs chrétiens. On feront partie toutefois de ce mouvement, et l'Église elle-même va évoluer, feront partie de ce mouvement abolitionniste. Alors dès le départ, alors il y a par exemple Saint Hippolyte au IIIe siècle, qui lui est carrément contre l'idée de faire couler le sang, au point qu'il demande aux chrétiens de ne pas se faire soldat, ni juge, ni a fortiori bourreau. Mais au XIIe siècle, il y a un retour du arrière, en quelque sorte, avec le droit romain de nouveau remis en vigueur. L'Église veut renforcer son pouvoir, les menaces d'hérésie, les cathares, etc. Et donc, retour à l'idée, à l'acceptation, et on prône même la peine de mort. Et dans cette idée, qui nous paraît étrange aujourd'hui, justement, qui a un côté humain, c'est-à-dire que, eh bien, le condamné, en l'exécutant, il paie sa peine sur cette terre et son âme est sauvée. Il ne va pas en enfer. Ouais. Peut-être un temps de purgatoire. Ça, c'est inévitable, mais ensuite, il est voué au paradis. Il paie ici, sur terre. Donc, c'est un salut. C'est dans son intérêt, bien compris, si on peut dire. C'est une vision rédemptrice de la peine de mort. Alors, au niveau à l'époque c'était chrétien, puisque catholique, la notion de catholique, ça se démarque à partir du XVIe siècle, à partir de Luther et du protestantisme. Alors, par exemple, chez les anglicans, donc au XVIe siècle, sous Henri VIII, qui est le premier pape en son royaume, qui se sépare de l'Église catholique, alors là, il utilise la peine de mort. Il y aura à peu près peut-être 7000 exécutés sous Henri VIII, dont deux de ses femmes. Deux de ses femmes, il a six femmes et deux monteront à l'échafaud. Anne Boleyn et Catherine Howard. Voilà. Un roi barbe bleue un peu. Mais les protestants, d'ailleurs, par exemple Calvin, au XVIe siècle, utilisent largement y compris notamment pour cas d'hérésie. Michel Servet, par exemple, considéré comme hérétique, à Genève sera brûlé. Voilà. On peut citer aussi, mais alors je reviens en arrière, dans les poètes, les penseurs, enfin, on disait pas penseurs, François Villon, 1463, eh bien, dans sa balade des pendus, bien sûr, condamne aussi la peine de mort. Voilà. Mais concernant cette époque du XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, l'Inquisition, en France, en Espagne aussi, très forte, qui sera illustrée par les dominicains, c'est-à-dire qu'on condamne les hérétiques au bûcher, eh bien, l'Église condamne, ça sera le cas pour les Templiers, ce sera le cas pour Jeanne d'Arc, donc en 1431, mais elle laisse au bras séculier, c'est-à-dire c'est le prince qui exécute la sentence, c'est le souverain temporel qui procède à l'exécution. L'Église ne se salit pas les mains en quelque sorte, mais elle prononce la condamnation par les tribunaux ecclésiastiques. Alors pour Jeanne d'Arc c'est le cas, pour les Templiers c'est quand même le souverain qui a imposé l'exécution. Alors on fait des autodafés, c'est-à-dire les cathares, j'en ai parlé, au XIIIe siècle. Je ne reviens pas, les Templiers, Jacques de Molay en 1314, Jeanne d'Arc en 1431, c'est des exécutions bien sûr publiques. Et puis alors Calvin, je me répète, c'est toujours la loi du talion à Genève, et exécution de Michel Servet en 1553, hérétique au calvinisme. Les Anglicans, je viens d'en parler, Henri VIII, alors là, j'y reviens, oui. Alors je me demande si j'ai bien noté le bon chiffre, ou si c'est 72 000 exécutions, on va dire 7 000 au moins, c'est déjà pas mal, dont les deux épouses, Anne Boleyn et Catherine Howard, hein. Et un illustre exécuté aussi, supplicié, le chancelier Thomas More, en 1555, qui était contre le divorce d'Henri VIII et contre la séparation, la rupture contre le schisme avec l'Église catholique. Donc, évolution toutefois, donc vers le sens de cette suppression de la peine de mort, y compris par l'Église catholique qui l'a réduit au minimum, hein, au cas minimum, et elle ne sera abrogée que sous le mandat du pape. Mandat, c'est un terme un peu politique, mais bon, après l'élection, donc sous le pape François, donc 2013, et qui est en cours, elle est expurgée du catéchisme de l'Église catholique. L'Église est contre la peine de mort. Voilà. Barbarie, inexemplarité, j'y reviens, psychiatrie, notion d'irresponsabilité, possibilité de rachat, et le risque terrible de l'erreur judiciaire. Donc, il me reste peu de temps. Alors, sur les modes, je voulais vous parler un peu des dynasties de bourreaux, les Sanson, par exemple. Et le dernier bourreau a pris sa retraite, il s'appelait Chevalier, alors je ne sais pas son nom. Il a exécuté le Ranucci. Il a exécuté en 76 Christian Ranucci, et il a exécuté le dernier condamné que j'ai cité fin 77, Marcel Chevalier, je crois, avant de prendre sa retraite. Voilà. Il était le neveu du prédécesseur. Ça se transmettait souvent de père en fils. C'était dans les familles, notamment, j'en ai parlé, cette famille Sanson, qui pendant 40 ans à peu près, et va procéder aux grandes exécutions de la Révolution. Alors, je ne reviens pas sur les modes opératoires, j'en ai parlé, et on peut citer Arida Djandoubi, le dernier exécuté, c'était le 10 septembre 1977. Il avait assassiné un jeune mineur de 15 ans. Alors on peut citer aussi Bastien Thierry, le 11 mars 1963. Qui était l'instigateur et l'auteur de l'attentat du petit Clamart contre De Gaulle. Il a été exécuté au fort d'Ivry, et De Gaulle refuse la grâce. Voilà. Il y a eu Bontemps Buffet, dont j'ai parlé, qui a été exécuté en novembre 1972. Ils avaient pris en otage et assassiné un gardien et une infirmière à la prison de Clairvaux. Ranucci, Christian Ranucci, doute, et c'est le pullover rouge, vous savez, inspiré de ce fait divers, tragique, qui a été mis, dont on parlera, ce sera notre dernier intermède, narré par Gilles Perrault, hein, et qui sera mis en, adapté au cinéma sous ce titre, titre éponyme, Le Pullover Rouge, et évoque cette mort de Christian Ranucci avec tous les doutes. 7 novembre 1960, il est exécuté en juillet 1976. Voilà. J'aurais voulu évoquer des. Alors, la dernière femme exécutée, c'est en 1948, Geneviève Calame, à Paris, comme collaboratrice. C'était une collabo. Elle a été fusillée. Geneviève Godefroy, c'était l'avant-dernière. La dernière, c'était en 21 avril 1949, à Angers. Il y avait eu sous Pétain en 40 une avorteuse, alors qui avait été, je ne sais plus, Marie-Louise, qui avait été exécutée sous le régime de Pétain en 43. D'ailleurs, ça a été le film de Claude Chabrol, hein, vous savez, Histoire de femme avec Isabelle Huppert. Bon, je n'ai plus de temps. J'aurais voulu citer quelques phrases célèbres de grandes exécutions, par exemple sous la Révolution. Alors, il y a eu Robespierre, avant Robespierre, Danton exécuté, envoyé à l'échafaud par Robespierre. Robespierre le suivra, 1794. Montre ma tête au peuple, dit-il au bourreau, elle en vaut la peine. Marie-Antoinette qui monte à l'échafaud, à la bravade, en courant. Elle marche sur le pied du bourreau et avec toute la grâce de la souveraine qui régnait à Versailles. Oh, pardonnez-moi, monsieur le bourreau, je ne l'ai point fait exprès. Voilà. Louis XVI, que mon sang ne retombe pas sur le peuple, etc. Madame Roland, qui était exécutée avec les Girondins, dont elle était l'égérie, 1794, je ne dis pas de bêtises, « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom !» Et puis Olympe de Gouges, la première féministe, qui déclare « Puisque la femme peut monter à l'échafaud, elle doit pouvoir monter à la tribune, voilà, etc. » Donc, on va arrêter là, parce que mon temps est compté, hein. Une minute, monsieur le bourreau. Voilà. Donc, on va vous passer la chanson de. Alors, je ne sais pas si on a pu passer le pullover rouge. On pourra pas. On peut. Bon, eh bien, on va vous passer un extrait de la bande-annonce du film Pullover Rouge, d'après adaptation du roman de Gilles Perrault, hein, sur l'affaire Ranucci, exécuté en 1976. C'est un film de novembre 1979 de Michel Drac. On se retrouve dans. Deux petites minutes.
T'as là, un homme enlève une petite fille. Le père signale la disparition. Alors, c'est la routine policière. Un fait divers presque banal qui tourne au drame.
Oui, c'est elle. Elisa !
L'enquête commence avec ses contradictions.
Pouvez-vous me donner un signalement précis de cet individu?
1m72. Non. 1m74.
Assez grand, 1m80 environ.
Il était châtain clair. Il portait un pullover vert.
Il avait un pullover rouge.
Mais non, madame. Ça n'a jamais été à lui, il déteste le rouge.
Un jeune homme de 20 ans, Christian Ranucci, est soupçonné.
Bon, ça va pas.
Votre fils, c'est pas lui qui a fait le coup.
Il l'a présenté à la police pour l'identifier.
Il était là devant moi, je voyais bien que c'était pas lui.
J'ai la petite fille que vous avez enlevée le 3 juin et que vous avez tuée.
Mais c'est pas vrai, mais vous êtes fou ou quoi?
Christian Ranucci est arrêté.
Il a avoué.
Non, non. Il n'a pas avoué, mais de très fortes charges pèsent sur lui. Il vient de trouver un fouet dans sa voiture.
Un fouet?
Il a pas l'air d'un monstre.
Il ne vous a jamais paru anormal?
Non. Il faisait l'amour très normalement.
La matraque! C'est vous qui l'a tenu, la matraque!
Et vous, monsieur, vous êtes un monstre! Un monstre!
Oui, et qu'on le tue!
La foule réclame le châtiment.
À mort!
Vous avez passé des aveux devant la police, ils n'ont pas de valeur juridique réelle.
Après 20 heures d'interrogatoire sans s'arrêter, j'avais l'impression de devenir fou.
Une affaire d'assises prend 2 ans. J'ai mis 6 mois.
Elle est incroyable, ce juge d'instruction. Elle n'a pas convoqué les 2 témoins d'enlèvement.
Rien du tout dans le dossier. On a totalement escamoté l'homme au pull vert rouge.
Ça y est, il s'étonne de l'absence de procès-verbaux sur l'homme au pull vert rouge.
L'homme était vêtu d'un pull vert vert. Vert, pas rouge. Et vous? Est-ce que c'est vous?
2 ans plus tard, ce jeune homme a été guillotiné. Est-il coupable?
Bon, juste les 3 derniers bourreaux. C'était Jules-Henri Desfourneaux, 1939-51, André Aubrecht, qui était cousin du précédent, et 51-76, Marcel Chevalier, 1976-1981, qui a procédé aux exécutions de 76 et 77 que j'ai citées. Ça a été le dernier bourreau. Il a pris sa retraite en 81. Il était le neveu du précédent. Et la femme, l'avorteuse, elle n'avait pas été la dernière, je l'ai dit, mais c'était Marie-Louise Giraud, exécutée le 30 juillet 43 sous Pétain, pour cause d'avortement, mais elle avait commis d'autres fautes, hein, voilà, 43, et la dernière c'était en 49. Donc on va vous passer Julien Clerc, la très belle chanson de Julien Clerc, L'assassin assassiné. À bientôt chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.
C'était un jour à la maison. Je voulais faire une chanson d'amour, peut-être, à côté de la fenêtre. Quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono. Et moi penché sur mon piano, comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots. À ma musique, le matin même, à la santé, un homme avait été exécuté. Et nous étions si tranquilles, là au cœur battant de la ville. C'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles, sortant peu à peu de chez elles, composent doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup, ils lui ont dit d'un ton doux, c'est le jour, c'est l'heure, il les a regardés sans couleur, il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui, il a pas pu. Il a pris une cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, paroles et musique de personne, et j'ai pensé à ce salon au sang lavé sur le pavé. Passé pour eux, je ne suis président de rien. Moi, je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien, et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose. Messieurs les assassins, commence, mais la société recommence. Le sang des condamnés à mort, c'est du sang d'or, c'en est encore, c'en est encore. Chacun son rôle, ça n'est pas drôle, on lui donne deux, trois paroles et un peu d'alcool. On lui part, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand des noirs protège sa mort des regards, et puis ensuite ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette, à la place d'une chanson d'amour peut-être, de vous chanter un silence, c'est que ce souvenir me hante. Lorsque le couteau est tombé, le crime a changé de côté. Si j'y ce soir dans ma